Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Alexandra Loisel-Goulet qui vient nous présenter son livre « Ma vie est comme une chanson des années 80 ». À l'espresso et à l'espresso allongé, le sujet sera la peur de l'engagement. Notre collaboratrice Catherine Stassin vient nous rendre visite avec son sujet « La santé mentale chez les aînés ». Alors tout ça dans le menu de Folie douce. On commence dans quelques instants avec la première chanson de Claude Bégin. La chanson s'intitule « Des cœurs par la tête ». Vous écoutez Folie douce, émission numéro 799.
Soyez branchés, déboussolés, renfermés ou éclatés, vous s'étonisez actuellement Folie douce.
Je reçois maintenant mon invité, Alexandra Loisel-Goulet. Bonjour Alexandra.
Bonjour.
Pas la première fois qu'on te reçoit, c'est la deuxième fois.
Oui, avec plaisir.
Et c'est intéressant de te recevoir parce que la première fois, tu nous as parlé de ton blog, justement, La fille et son anxiété, où tu nous as justement démystifié le côté anxiété. Tu nous avais expliqué un peu comment ça roulait dans le fond dans ta tête, souvent,
parce que roule, oui.
Ouais, ça, quand on dit l'hamster roule, lui, il est vraiment aux Olympiques, tu sais, il roule. Puis peux-tu nous restituer encore ce que c'est, la fille avec son anxiété, puis pourquoi tu as peut-être créé cette...
Ben en fait, c'est un blog qui parle d'anxiété, mais deux fois, je me mouille à parler de santé mentale en général aussi.
Ouais.
De plus en plus, je parle de troubles de personnalité limite aussi. C'est un... On dirait que j'aime ça, parler de choses dont on parle pas. L'anxiété, on en parle un petit peu plus. Donc, je trouve que le TPL, tu sais, j'ai quelque chose à dire là-dessus. Ouais. Je trouve que les gens n'en parlent pas. Donc,
c'est tabou. Il y a beaucoup de monde qui n'ose peut-être pas le dire, mais il y a beaucoup de monde qui en souffre.
Exact,
dans le fond.
Exact. Puis c'est qu'en fait, je pense qu'on ne le comprend pas. On pense que, tu sais, on comprend la bipolarité un peu. On va comprendre l'anxiété de plus en plus. Mais le trouble de personnalité limite, c'est comme une bibitte qu'on ne sait pas trop exactement qu'est-ce que c'est. Puis les gens ont peur d'être atteints de ça. Donc ça me fait comme plaisir d'en parler justement pour qu'on arrête d'avoir cette peur-là vis-à-vis ça, d'avoir peur surtout des gens qui en souffrent, en fait.
Oui, puis ce que j'en remarque, c'est qu'il y a beaucoup de participation. C'est ça qui est la bonne nouvelle, je trouve.
L'engagement, là, pour vrai, j'ai beaucoup de partage. Les gens sont là. De plus en plus, les gens osent aimer. J'avais beaucoup de différence entre abonner et aimer.
Oui.
Parce que
tu peux suivre quelque chose, t'abonner, mais aimer, ça veut dire qu'il y a comme un statement.
Il y a un engagement, puis les gens le voient que t'aimes quelque chose. Tandis que quand t'es juste abonné, les gens le savent pas.
Ouais.
Fait que de plus en plus, les gens aiment. Fait que ça, c'est vraiment le fun pour moi. Tu sais, ça va faire 3 ans, mais là, 2 ans et demi, puis j'ai déjà, tu sais, le cap du 8000 et tout ça. Fait que puis les gens, c'est ça, ils commentent beaucoup, ils partagent. Donc ça, c'est vraiment bien, là. Les gens parlent en privé, tu sais, ils me parlent en privé, tout ça. Fait qu'il y a vraiment un beau mouvement positif.
Parce qu'il y avait un besoin, probablement, que, tu sais, il y a tellement de gens qui savent plus trop à qui, juste de dire des choses, juste de pas se sentir jugé, d'être capable d'en parler, de l'écrire. Tu sais, c'est pas évident d'avoir comme une espèce d'ami virtuel. En tout cas, on parle de web, mais chez un certain point, t'es presque une amie aussi réelle.
Mais en fait, oui, je pense que les gens me voient comme ça dans le sens où souvent, les gens qui vont parler de santé mentale, ça va être des professionnels de la santé, ça va être travailleurs sociaux, psychologues et tout ça. Ils font un excellent travail, mais d'après moi aussi, c'est juste qu'ils s'éloignent un peu des gens. Tu sais, veux pas par leur fonction, ils peuvent pas être aussi proches des gens. Ce qui fait que moi, de mon côté, mais en fait, tu sais, comme je dis, je suis tout le temps, je suis pas psy, je suis pas travailleuse sociale, je suis juste une fille qui a fait des thérapies pendant 20 ans. Fait qu'à un moment donné, je connais bien le rouage de la santé mentale, je connais qu'est-ce que c'est par en dedans aussi. Fait que les gens, je les comprends. J'ai probablement vécu ce qu'ils ont vécu.
C'est un peu la paire aidante. On dit souvent, les paires aidants, les gens qui ont connu ce que c'est, ils sont capables de bien communiquer peut-être avec la personne qui a une problématique semblable.
Ben oui, puis une des qualités premières des gens qui ont un problème de santé mentale, c'est la compassion. On l'a vraiment beaucoup, l'empathie, la compassion. Donc, c'est facile d'emblée pour moi là, d'avoir ce côté-là avec eux.
Oui, exactement. Et tu as évidemment probablement réalisé un rêve. Ça devait être un rêve. J'ai un bouquin devant moi. Mm-hmm. Tu as écrit un livre. Donc, est-ce que c'est ton premier livre?
Oui, c'est mon premier
livre. Parce que souvent, on a une liste, là, une espèce de liste d'épicerie.
Une bucket list,
puis qu'on veut cocher. Puis il y en a beaucoup qui ont ça, mais... C'est de trouver un livre sur quoi, un livre que c'est un. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, ton livre, c'est Ma vie est comme une chanson des années 80.
Oui.
Puis c'est intéressant, on va évidemment rentrer dans le sujet. Mais pourquoi avoir écrit ce livre-là et est-ce que c'est un rêve depuis longtemps?
Bien, en fait, pour être honnête, pas tant. C'est pas quelque chose que j'aurais pas pensé à ça adolescente, mettons. Je pense que c'est quand j'ai commencé à être en symbiose avec l'écriture, quand j'ai commencé à me dire, finalement, je sais écrire.
En bloguant, tout ça, évidemment.
Exact. Je me suis découverte une passion des mots, puis de l'écriture. Mais avant ça, c'était quelque chose que je trouvais le fun. J'ai toujours lu vraiment beaucoup. Je trouvais les auteurs impressionnants. Mais je pense que j'étais juste peut-être pas capable, dans mon anxiété, puis dans, tu sais, le syndrome de l'imposteur, de se dire, moi, je ne serais pas capable, je ne suis pas rendue là. Fait que je me permettais peut-être pas de penser à ça.
Oui.
Mais là, plus le blog avançait, plus il y avait des commentaires positifs, plus tu fais, peut-être que je suis capable. Mais en même temps, je me suis pas assis en me disant, là, c'est aujourd'hui que je commence à écrire un livre. Tu sais, c'est pas venu comme ça du tout de mon côté. Tu sais, c'est vraiment venu par, j'ai une histoire à raconter. Puis qu'elle finisse en livre, qu'elle finisse en blog, en PDF sur l'Internet, moi, c'était comme, j'ai le goût de raconter quelque chose, mais que ça soit autre chose que moi. Parce que je parlais toujours de moi dans mon blog. Puis à un moment donné... J'avais le goût de me détacher un peu de ça, mais de quand même raconter
ce que tu vis,
ce que je vis, exact.
Parce que comment tu le qualifies? Est-ce que c'est une fiction? Parce que on remarque que c'est Audrey, le nom de la, donc qui ressemble peut-être commence par A. Donc je me suis dit peut-être qu'il y a un côté un peu biographique.
Mais... c'est une autofiction, j'appelle ça. Okay. Tu sais, dans le sens où c'est basé sur certains trucs que j'ai vécu, comme dans le livre Audrey, justement, le personnage, elle travaille dans le milieu culturel.
Ouais.
Moi, j'ai travaillé dans ce milieu-là pendant 15 ans. Elle a un trouble de personnalité limite, j'en ai un. Mais il y a plein de choses que je n'ai pas vécues puis que j'ai rajouté pour le plaisir de la chose puis le plaisir de juste d'avoir comme une histoire à raconter.
Ouais, ouais. T'inspires de toi, mais tu sais, à quelque part, t'as créé un personnage qui pourrait, à certains points, te ressembler, mais c'est pas nécessairement toi totalement.
Puis il y a des choses aussi qu'Audrey fait que moi, j'ai peut-être rêvé de faire ou que dans ma tête, je me suis dit, ah, me semble que je le ferais, mais que... Des fois, tu sais, la raison, le côté un peu, je peux pas faire ça, c'est un roman.
Ouais,
fait que là, je me suis lâché lousse, puis ça fait du bien.
Ouais.
Oui, ça extériorise des sentiments, des trucs, puis c'est vraiment quelque chose de le fun à explorer, en fait.
Quand je l'ai reçu, j'ai commencé à le feuilleter, j'étais assez curieux, la pochette est belle, puis tout ça, puis années 80, écoute, pour moi, ça veut dire beaucoup aussi, là, première voiture, première fois que j'ai fait de la radio, il y a beaucoup d'événements dans les années 80 qui me reviennent, puis à chaque fois, je regardais un chapitre. C'est des sites de chansons, tu sais, puis chaque chanson qui sont là, je les connais. Fait que ça t'est venu comment, l'idée de commencer les chapitres avec un titre de chanson?
Ben en fait, moi, je suis une fan des années 80. Je suis née en 1980 pile. En fait, c'est que cette musique-là a bercé mon enfance. Mes parents, c'était des mélomanes, aimaient beaucoup la musique. C'est des chansons qui remontent beaucoup d'émotions pour moi. Mais en fait, je trouvais le parallèle intéressant avec le TPL. Tu sais, les années 80, autant que c'est coloré, que c'est le fluo, l'exubérance.
Les grosses chevelures et tout.
Exact.
Hein?
Donc, le TPL a ce côté-là aussi. Et dans les The Cure et compagnie, c'est noir. Il y a eu beaucoup de suicides. Il y a le début du sida. Bon, tu sais, fait qu'il y a quand même beaucoup de périodes noires. Donc, le côté, tu sais, tout est noir, tout est blanc du TPL, je trouvais que les années 80 représentaient ça vraiment beaucoup.
Oui, exactement.
Puis en fait, les chapitres, je trouvais ça juste le fun de dire, bon, mais les gens connaissent les chansons d'emblée. En partant, ils vont les chanter un peu, ils savent un peu qu'est-ce que la chanson dit. Fait que ça met la table facilement à un chapitre.
Oui. Ça attire l'attention, oui, parce que tu te demandes, tu dis, puis on dirait que ça fait le tour, tu sais, du... c'est assez incroyable, tu sais, la recherche musicale, en fait, bibliographie musicale que tu as mise, c'est ça, tu as l'impression que tu fais vraiment le tour des émotions aussi, tu sais, et un peu de soit de la compassion, puis ces choses-là, fait que c'est vraiment intéressant.
Exact, puis les commentaires que j'ai eus, c'est beaucoup ça, c'est quand on lit, bien là, veut pas, la chanson part dans notre tête, mais l'émotion qu'on a ressentie nous-mêmes au moment où on a entendu cette chanson-là pour la première fois,
ou,
tu sais, il y a peut-être une première fois qui sont arrivées sur des chansons,
mais
ça, c'est... Automatiquement, les gens avaient ces sentiments-là, puis je trouvais ça le fun
Comme tu dis aussi, il y a beaucoup de... Dans la jeunesse, souvent, on est marqué par des chansons. L'aspect auditif d'une chanson a tellement d'importance. On entend des choses, on est plus ou moins vieux, des fois 3, 4 ans, 5 ans. Puis souvent, il y a des chansons qui nous restent justement parce que nos parents l'écoutaient ou qu'on écoutait ça en voiture. Ou,
exact.
C'est tout le monde à peu près, c'est comme ça. Hein?
Exact.
Effectivement.
Puis cette période-là, ben, c'est ça. On l'écoute tellement, même encore aujourd'hui, que je me suis dit, bon, ben, mon livre, je le sais qu'il est ciblé quand même, mettons, 35-50, parce que années 80. Mais les jeunes d'aujourd'hui connaissent quand même certaines de ces chansons-là. Fait que je trouvais ça quand même intemporel comme thème.
Oui, et même si les jeunes n'ont pas connu ces chansons-là, à quelque part, ils peuvent aussi, tu sais, ça devient presque un portrait d'un moment dans une...
Exact, d'une génération.
D'une génération, exactement. Exactement. Ouais. Comment tu vois la suite? Parce que là, évidemment, le lancement s'est fait à l'automne 2019, c'est quand même récent.
Oui.
Tu as participé au Salon du livre, est-ce que la réponse était bonne?
Excellent. Honnêtement, j'aurais pas pu vouloir mieux. Tu sais, pour une jeune auteure comme moi, et jeune dans le sens premier livre. mais dans...
Pas si vieille, les années 80, quand même.
Mais c'est ça, premier livre, en fait, tu sais, je m'étais fait dire, ben ça se peut que personne te regarde, ça se peut que... Puis je partais, moi, avec juste l'énervement d'une carte qui est écrite et mon nom auteur.
Ouais.
Tu sais, moi, c'était que
puis
ça.
Puis t'as ton livre, là, ton nom est sur le livre, là, c'est
mais
pas
le reste, c'était comme moi, si personne en achète, c'était même pas ça, tu sais.
Ouais.
Puis finalement, ça s'est vraiment bien vendu. Puis même le monde, là, ça passait devant moi, puis ça disait, hey, je te lis tous les jours. Puis ça me disait des saluts. Okay. Puis j'étais comme tabarnouche.
Tu te connaissais avec le blog.
Oui, oui. Fait que là, tu étais à côté des grands comme Patrick Sénécal, Francine Ruel. Puis le monde, il te salue pareil. Mm-hmm. Le monde, ils sont venus avec les circulaires, ils ont entouré ton livre, puis ils viennent le chercher. Fait que c'est spécial.
C'est touchant,
puis c'est spécial. T'as de la misère à un moment donné même à croire que c'est toi. Là, ouais. Tu fais comme, ah oui, puis là, t'es content, mais de le réaliser vraiment pleinement, c'est quelque chose.
Oui, mais ben, je lisais tes statuts, puis c'est ça, effectivement, t'avais l'impression, je suis tellement chanceuse d'être ici, ou je suis tellement, tu sais, il y avait quelque chose de beau là-dedans.
Moi, je suis vraiment en gratitude de
tout ça. Oui, en gratitude, ouais, vraiment, c'est ça, exactement.
Vraiment,
c'est ça. Ouais. Est-ce que tu penses, est-ce que le succès, il y a quand même eu un bon succès au départ? Mm-hmm. Est-ce que tu penses déjà à d'autres écritures? Parce que tu sais,
ouais,
tu continues ton blog.
J'ai commencé le deuxième roman, en fait,
ouais,
la suite.
Ça t'a donné le goût. Ouais. Comment ça a été pour l'éditeur? Parce que ça a toujours un petit peu... Des fois, on entend des belles histoires où un éditeur contacte quelqu'un puis dit hey, « j'aime ce que tu fais, tout ça ». Toi, dans le fond, t'as écrit, t'as probablement contacté des éditeurs? Comment
non,
ça s'est
pas
passé?
Du tout. Non? En fait, c'est un concours de circonstances. C'est une amie à moi qui connaissait mon éditeur. Lui avait vu passer La fille et son anxiété par rapport à cette amie-là qui avait partagé quelque chose. Lui, il cherchait à parler d'anxiété. Fait que il a demandé est-ce qu'elle peut m'en contacter. Fait que moi, je l'ai contactée. J'avais 3 chapitres d'écrit. Fait que tu sais, moi, j'étais vraiment embryonnaire. Et quand je parle au téléphone, il me dit ben, je serais intéressée à voir si tu peux écrire quelque chose sur l'anxiété. Fait que moi, je dis, ben, j'ai quelque chose de commencé, là, genre un roman. Puis je l'ai à peu près dit de même, là, tu sais. Mm-hmm. Pas capable d'assumer encore qu'est-ce que c'est. Puis il dit, ben, tu me l'enverrais-tu? Fait que je dis, ben, pas trop. Fait que j'envoie ça. Puis finalement, 3 jours après, il me rappelle, puis il dit, ben, je te signe tout de suite ou j'attends que tu le finisses.
OK, OK.
Fait que là, j'ai fait, bon, tout de suite, tu m'as dit,
ça va me motiver, j'ai pas le choix, là, faut que je livre.
Ouais, puis moi, je suis bien bonne sa pression. Fait que ça m'a comme poussé à livrer.
Ouais.
Puis c'est comme ça, fait que c'est une belle histoire. Tu sais, j'ai pas eu ce qu'on entend beaucoup là, des éditeurs, moi, il est resté là 3 mois.
Ouais, c'est ça.
Pas du tout, tu sais. Fait que je t'ai dû.
Oui, effectivement. Ouais. Donc, c'était ton intuition, en tout cas, pour commencer à écrire ça, probablement qu'elle était très bonne. Tu as suivi, finalement, ton idée.
Oui, c'est ça.
Là, c'est super intéressant. Comment on peut le trouver partout? Là, je pense que dans toutes les librairies, on peut chercher. Les éditions, c'est quoi, en passant?
C'est ADA, mais en fait, c'est la collection Arbre de vie de ADA. Fait que oui, il est disponible en ligne. Il est disponible autant en numérique qu'en support papier.
Ouais.
On est rentré en France. Donc, bel accomplissement, oui. Donc, il est disponible partout.
C'est Ma vie est comme une chanson des années 80 d'Alexandra Loisel-Goulet. Oui. Si on veut te lire aussi pour La fille et son anxiété, on cherche La fille et son anxiété, j'imagine.
Oui, La fille et son anxiété.com.
On trouve partout.
Sur Internet, sur Facebook, sur Instagram. Je suis partout.
Partout. Ben, c'est vraiment intéressant. Je suis vraiment heureux que ça avance bien. Je trouve que c'est un beau projet. Merci beaucoup, Alexandra, d'avoir été avec nous. Merci. Bonne continuation.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Aujourd'hui, je suis trop efficace, 33 ans, comme Jésus, quand il a quitté la place au bastion. On m'a dit, sois sage et perspicace, je suis à l'œil, aux 10 doigts, il n'y aura pas d'impasse. De la tête aux pieds, je suis des chiffres animés sur un écran de PC dans une boîte au placé. Mon boss est juste à côté, il dit de continuer. Et comme je suis engagée, je continue à frapper. L'heure est au flic et au blé, faut multiplier les poignets. Quoi qu'il se passe à côté, j'ai pas le temps d'y penser. Tout plein de bonne volonté, je suis un type à croquer, intelligent et doué. Je me dois d'être efficace. Arrivé pour un meeting en privé, il fallait tout expliquer de ma mission à plier. Mon cœur s'est vite arrêté, le sujet semblait vraiment laid, mais je suis un peu mal placée pour un avis à donner. J'ai choisi de me calmer dans une boîte au placé. On maîtrise son sujet, c'est pas à moi d'y penser. Quoi qu'il se passe à côté, je suis des chiffres animés. Mon boss est juste à côté, je me dois d'être efficace. Dans un conflit de pensées, je voudrais tout arrêter, je continue à frapper. Un jour je me suis levée, je voulais tout arrêter. Mon boss m'a bien regardé.
regarder.
Vous n'avez pas le choix, vous devez continuer.
Je veux vous voir efficace. Comique, agenti, mon cœur dit de tout arrêter quand mon corps continue à frapper au milieu de tous ces gens. Je ne veux pas être le raté, le rebelle à deux balles qui s'impose, qui fait tout foirer. Cela dit, j'ai pas compris, les choses se font petit à petit. C'est probablement le souci casé dans ma conscience. Je suis un petit point qui soi-disant fait avancer la science. Il y a plus de 1000 grammes dans un crâne. Il y a plus de 1000 grammes dans un crâne. Il y a plus de 1000 grammes dans un crâne. Il y a plus de 1000 grammes dans un. Il y a plus de 1000 grammes dans un crâne. Il y a plus de 1000 grammes dans un crâne. Il y a plus de 1000 grammes dans un crâne. Il y a plus de 1000 grammes dans un.
Folie douce est aussi présent sur Instagram. Venez nous voir.
C'est maintenant le moment du bloc espresso. Bonjour Pierre Laporte.
Salut Yvan.
Alors aujourd'hui, le sujet, la peur de l'engagement.
La peur de l'engagement.
Les gens ne s'engagent pas, quoi, c'est ça?
Ben, en fait, c'est l'engagement dans le mariage.
Ah, OK, dans ce sens-là, ouais,
oui,
c'est ça.
Dans ce sens-là.
Ouais.
Parce que...
Ben, dans une relation quelconque, c'est peut-être... Là, c'est vraiment axé sur le mariage.
Oui, 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 oui.
D'accord.
Ben, écoute... Oui, peut-être que ça veut dire... en tout cas, c'est la vie de couple, mais beaucoup sur le mariage.
Ouais.
Mais je vais commencer par des statistiques au Québec, où on voit que on n'est pas trop fort sur le mariage depuis quelques années.
C'est presque mondial, je dirais aussi. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des pays que c'est mieux que d'autres.
C'est possible, mais je me suis concentré ici, sur là. Le Québec,
ouais.
Oui, pour aujourd'hui. Alors, je suis allé sur le site rcinet.ca, qui est en fait Radio-Canada International. C'est un article écrit par M. Stéphane Parent, qui est né au Québec, élevé en Afrique, puis exilé pendant plusieurs années dans l'Ouest canadien et vivant aujourd'hui en Ontario. Il aime se spécialiser dans les analyses en profondeur où il peut mettre en valeur ses talents d'observation et d'écrire avec nuance les différentes réalités canadiennes. Alors, il nous dit seulement 22 000 mariages ont eu lieu au Québec. Ça, c'était en 2016. Et les mariés se font de plus en plus vieux. En 2017, c'était 22 883. En 2018, 22 800. Donc, ça va en descendant encore, lentement mais sûrement. Il nous dit, les Québécois se marient de moins en moins, mais on constate qu'ils le font aussi maintenant beaucoup plus tard dans leur vie et qu'ils optent de plus en plus pour les mariages célébrés par un proche. Selon les données provisoires de l'Institut de la statistique du Québec, environ 21 950 mariages ont été célébrés au Québec en 2016, soit un tout petit peu moins qu'en 2015 et 2014. Le nombre de mariages diminue d'ailleurs depuis 2012, même s'il s'était légèrement accru au cours de la première décennie des années 2000. Et il y a toujours plus de divorces au fil du temps. Si on recule jusqu'en 1890, 5% des couples seulement divorçaient. Ils étaient 18% en 1920, 30% en 1950 et 50% dans les années 1970. L'âge médian du divorce, qui était de 7 ans de mariage en 1960, est maintenant de 5 ans. Et 67% des couples mariés depuis 1990 auront divorcé en 2030. Moins d'un Québécois sur trois va se marier avant l'âge de 50 ans. Si la tendance se maintient, l'Institut de la statistique du Québec estime que seulement 27 % des hommes et 29 % des femmes se marieront au moins une fois avant leur 50e anniversaire. Et ceux qui se marient attendent plus longtemps avant de prononcer leurs vœux. L'âge moyen au premier mariage atteignait 33 ans, ou 33 si tu veux, 4 chez les hommes et 31,9 chez les femmes en 2016. Au début des années 1970, les Québécois se mariaient en moyenne 8 ans plus jeunes, soit à 24 ou 25 ans. Alors, ça, c'était pour les statistiques. Maintenant, dans un autre article qui s'appelle « Ces personnes qui ont peur d'aimer et de s'engager on essaie de savoir pourquoi c'est comme ça, pourquoi ça te prend de l'engagement. C'est un article révisé par le comité psychologue.net. Et ça, j'ai pris ça sur le site psychologue, justement, .net. Comme beaucoup d'articles sur l'Internet, on ne donne pas crédit à une personne en particulier. C'est une équipe.
Ouais, c'est ça, mais il y a quand même de très bons sujets.
Oui. Ouais. Alors, le comité psychologue nous dit, entre engagement et besoin de liberté, certaines personnes ont du mal à donner leur cœur et une demande en mariage ne suscite pas toujours autant d'enthousiasme qu'on le souhaiterait. La peur d'aimer est de plus en plus présente dans notre société du fait des divorces qui se multiplient notamment. Et que dire de la demande en mariage qui peut faire ressurgir la peur de l'engagement chez son partenaire et renvoyer une image d'un emprisonnement et d'une perte de liberté?
Peut-être les gens aussi se réfèrent à des expériences passées, puis ayant souffert, ont peut-être peur de ressouffrir, tu sais, des fois il y a eu des mauvaises expériences de couple,
ça,
par exemple.
Oui, ça c'est un facteur, tu vas voir, on va en parler dans l'article. Qui n'a jamais entendu de la bouche d'une personne « je ne me sens pas prêt pour une relation sérieuse ». Certains refusent la vie de couple marié malgré le temps passé ensemble. Il est important de comprendre cette peur appelée le transfert de relation. La peur la plus importante pour ce genre de personnes est de perdre quelque chose. Il est important alors de s'intéresser aux fausses barrières de cette personne et de la rassurer sur ce qui la rebute le plus et sur ce qui semble important à ses yeux. Il faut utiliser les bons mots et les arguments pour lui prouver qu'une relation sérieuse n'est pas synonyme d'enfermement. Il s'avérerait que les hommes, eux, vivent dans le passé et voient leur future relation à partir des expériences qu'ils ont vécues avec leurs anciens partenaires. Pour prévenir cette peur de l'engagement, la clé du succès réside dans le fait de contourner les barrières du couple par d'autres chemins tels que la séduction, le sourire, le bonheur et la complicité. Pour celui qui n'a pas peur de l'engagement, le plus difficile à comprendre est que son concubin ou sa concubine, malgré sa peur, puisse quand même avoir aussi des sentiments amoureux. Toutefois, l'angoisse de voir disparaître sa liberté aura été la plus forte. Cette personne s'est alors imaginée liée à quelqu'un, avoir des responsabilités affectives et être privée de sortir avec ses amis tout en devant rester avec vous enfermé. De plus, parfois, notre propre comportement peut être remis en question par le fait de trop aimer. Alors, je vais m'arrêter ici, Yvan, et je poursuivrai un peu plus tard.
Comme d'habitude, on allonge le plaisir, finalement, sur la peur de l'engagement. On va en apprendre plus, certainement, à Folie douce. Merci.
Les meilleurs chroniqueurs en santé mentale s'expriment sur les ondes de Folie douce. Écoutons-les.
J'accueille à nouveau notre chroniqueuse, donc Catherine Stassin. Bonjour Catherine.
Bonjour Yvan.
Bonjour. Alors encore aujourd'hui, tu nous viens avec un excellent sujet sur la santé mentale et cette fois-ci la santé mentale des aînés, dont on ne parle pas tant que ça finalement à l'émission et dans la société en général. Les aînés sont souvent peut-être délaissés. À un certain point, donc on va en apprendre plus sur la santé mentale, peut-être l'état de la situation de la santé mentale des aînés, n'est-ce pas?
En effet, oui. Et Yvan, saviez-vous que les aînés, selon les chiffres officiels au Canada, ne sont pas plus touchés par la maladie mentale que le reste de la population? Ce sont les chiffres officiels canadiens.
Oui. Ils sont plus touchés ou
sont... Ils ne sont pas plus
pas
touchés.
Pas plus touchés, d'accord.
Ça, ce sont les chiffres officiels, mais après ça, il y a un grand mais.
Okay.
Est-ce qu'on va parler du grand mal?
J'aimerais bien, ben oui, certainement.
En fait, on peut d'abord un petit peu, pour expliquer aux gens qu'est-ce qu'on considère une personne aînée, c'est une personne qui a plus de 60 ans.
Mm-hmm.
C'est très hétérogène comme population, des gens très en forme, évidemment.
C'est déjà mieux
autonome.
Que 50 plus. C'est déjà mieux parce que 50 plus, je trouve ça jeune, des fois, pour dire aîné.
C'est très jeune, en effet. Donc, c'est une population très hétérogène, qui peut être très autonome, très en forme, et puis une autre population qui peut être très fragilisée, déjà. Mmh. Donc, c'est vraiment un ensemble de populations. C'est pas, on peut pas, on parle des aînés, mais dans le fond, il y a toutes sortes de personnes.
Il y a plusieurs types d'aînés. Tu sais, on parle d'un aîné depuis 90 ans, c'est pas la même chose que quelqu'un dans la soixantaine. Donc,
Et aussi, il peut y avoir quelqu'un de 90 ans très en forme et quelqu'un en soixantaine qui n'est déjà plus autonome.
Exact.
Donc voilà, ça c'est la population des aînés. Maintenant, en fait, en réalité, pourquoi il y a un grand mais? Il y a un grand mais parce qu'en fait, il est éprouvé que les troubles dépressifs et anxieux chez les aînés étaient sous-diagnostiqués. Donc, il y aurait beaucoup plus de personnes anxieuses et dépressives chez les aînés que le chiffre officiel. Mmh. Il y a d'autres chiffres. On parle au Québec d'une personne... pour l'Organisation mondiale de la santé, de 20% des aînés. D'accord?
Qui aurait une certaine problématique de santé mentale?
On Exactement. Précise pas, dans la... santé ouais. mentale, quand on parle de ces chiffres-là, il s'agit de santé mentale, incluant les problèmes neurologiques qu'on appelle, qui incluent la démence.
Okay.
D'accord? Maintenant, l'organisme Petit Frère, qui s'occupe des aînés, lui situe le chiffre à une personne sur quatre au Canada. Qui aurait des problèmes de santé mentale, incluant la démence.
Oui,
d'accord?
Oui.
Donc, il y a plusieurs sortes de chiffres. Ce qui est important, c'est que la grande différence avec le reste de la population qui serait aux prises avec des problèmes de santé mentale et en tout cas des troubles dépressifs et anxieux, c'est que les personnes aînées, à l'heure actuelle, peut-être plus dans 30 ans, mais à l'heure actuelle, sont réticents à faire part de leur tristesse. Donc, elles vont plutôt aller consulter un médecin et beaucoup utiliser les soins primaires, donc, et ne pas faire peur de tristesse, je répète, et par contre, dire « j'ai mal à la tête ». Donc, vraiment, prendre comme prétexte, entre guillemets, leur santé physique. Et donc, bien entendu, comme ce sont des personnes âgées, le risque ici, c'est évidemment que ce soit pris pour un problème purement physique. Donc, c'est vrai que la situation se complexifie avec une personne aînée, d'accord? Parce que les problèmes de santé mentale se mêlent aux problèmes de santé physique et vice-versa.
Ouais.
D'accord? Donc, c'est sûr que les professionnels de santé doivent être très au fait de cela. Et à ce moment-là, les chiffres sont plus élevés, évidemment, que les simples chiffres officiels.
Oui, parce que
de 5% de la population des aînés qui aura des troubles.
Oui, parce que quand même dans les problèmes de santé mentale, même pour des personnes en plus bas âge, souvent le problème physique peut aussi se présenter. Mais comme tu dis, les personnes âgées, des fois, développent aussi des problématiques de santé physique. Donc, comment on doit départager? Est-ce que c'est vraiment un problème de santé physique? C'est ça? Ça devient complexe.
Hein. Exactement. Et puis, c'est une génération aussi qui ne va pas parler de sa tristesse, de sa solitude directement, mais qui va plutôt somatiser et qui va avoir des douleurs diverses. Et donc, utiliser beaucoup le médecin sans formuler sa tristesse ou ses problèmes d'anxiété.
Il viendra un moment où il y aura beaucoup, un grand pourcentage de personnes âgées dans la société. Quand on parle de notre société, je parle de la plupart des sociétés, mais la société québécoise aussi, canadienne. Et on n'aura pas le choix de se poser des questions, comment on doit aborder ces questions-là, parce que c'est ça, on va tous vers ça, il va y en avoir plus des personnes âgées.
Tout à fait, en 2061, donc on est dans quelques années quand même, il y aura un tiers de la population canadienne qui sera considérée aînée.
Ouais.
Donc c'est certain que là les choses seront peut-être différentes, parce que c'est une génération qui a appris peut-être à parler plus de ses peurs, de sa tristesse, etc. Il y a toute une éducation. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'en fait, les facteurs de risque chez les aînés sont aussi différents du reste de la population. Donc, ils sont à risque de dépression, de troubles anxieux pour d'autres raisons que le reste de la population aussi. Il y a des raisons qui sont communes, bien entendu, mais c'est surtout, on va dire, les maladies chroniques de type diabète et arthrose. Et puis, surtout, les stress entraînés par l'isolement, la solitude, les stress entraînés par la perte d'un être cher.
Oui, il y en a beaucoup,
du retrait de la société, on ne travaille plus. Ouais. Peut-être certains ne font pas de bénévolat, etc. Donc, ils n'ont plus un rôle dans la société, ils n'ont plus un rôle dans la communauté, quelquefois non plus. Donc, ça, ce sont vraiment des facteurs de risque importants. Et Et le troisième facteur de risque très important, c'est la maltraitance physique et ou psychologique. Au Québec, un adulte aîné sur 10 est victime de maltraitance physique ou psychologique. On inclut dans cela aussi les psychologiques, financières, sexuelles aussi.
Oui.
Donc une personne sur dix au Québec.
Donc, voilà. On en a entendu des histoires, mais effectivement, c'est quelque chose. Et tu parlais tout à l'heure aussi du deuxième facteur, là, justement, de risque chez les aînés, la perte d'être cher. Oui. C'est un âge où on perd ses amis, famille, son conjoint, sa conjointe, peu importe. Donc, c'est des deuils. En plus, ça s'ajoute, comme tu dis aussi, aux maladies qui sont pas, c'est pas tous les aînés qui ont des maladies chroniques, mais il y en a quand même plus que...
Et puis au fonctionnement qui n'est plus le même. Les aînés n'ont pas, ont des restrictions au niveau du fonctionnement pour certains, pas pour tous.
Non.
Et puis tout cela débouche beaucoup sur l'isolement. L'isolement qui vraiment touche 30% des aînés sont vraiment en risque d'un grand isolement social, avec des conséquences sur la santé mentale. C'est pour ça que je voulais en parler plus particulièrement, parce que l'isolement fait partie des risques au même titre que le tabagisme, l'alcoolisme et l'obésité est un risque important pour la santé. C'est très important de prendre en considération cet isolement parce qu'il peut mener évidemment à la dépression, aux troubles anxieux et au suicide chez les personnes âgées également.
Je me demande toujours s'il y a assez de services et s'il y a assez d'activités, entre guillemets, pour des personnes âgées qui vivent, par exemple, dans leur logement. T'sais, on parle souvent des centres de personnes âgées où il y a certaines activités. Là, j'imagine que l'isolement est moins problématique. Mais il y a beaucoup de gens qui vivent seuls ou en appartement. Puis j'ai pas l'impression qu'il y a tant de services qui vont les rejoindre. Là.
Ben, c'est certain que les personnes en CHSLD ou dans un autre type d'institution... Il y a une différence avec les personnes chez elles qui doivent prendre l'initiative peut-être de se créer des projets personnels. Peut-être qu'en CHSLD ou une autre institution pour personnes âgées, ils vont inviter les personnes à créer des projets ensemble.
Il y a une certaine animation.
Voilà, et ça c'est important. Ça a été prouvé que la réalisation de projets personnels, la réalisation d'actions, était une manière de briser l'isolement avec d'autres choses, évidemment, et de repousser la dépression et le taux de suicide avec, évidemment, l'expression de ses sentiments. Ceci dit, c'est une génération qui est difficile à exprimer les sentiments et donc, malheureusement, seulement 5% des aînés qui ont été diagnostiqués avec un trouble dépressif ou anxieux consultent un psychologue. Donc, ils ont été diagnostiqués chez le médecin, etc. Mais seulement 5% vont aller consulter un psychologue. Et donc, on sait que chez le médecin, on n'a pas le temps de vraiment exprimer ses émotions. C'est important de pouvoir aller les exprimer chez quelqu'un d'autre.
Et peut-être l'histoire ne dit pas si c'est une question de coût. Est-ce que c'est des moyens que les gens n'ont pas? Ça coûte cher aller voir un psychologue?
Je pense que ça fait certainement partie du tableau, comme pour toutes les autres couches de la société. En termes d'âge et de différence d'âge, c'est que ça a toujours un grand coût.
Ouais.
Je sais qu'il y a des projets pilotes en Chaudière-Appalaches ou dans d'autres régions pour que le psychologue soit offert gratuitement pour certaines personnes. J'espère peut-être qu'on va arriver à ça un jour, mais pas immédiatement, je pense. C'est pas dans les projets. Mais c'est certain que le coût... Quand on est une personne aînée, la majorité des personnes aînées ont un revenu réduit.
Oui, exactement.
Donc, c'est une difficulté, certainement.
Mm-hmm.
Alors, ce qui est important, comme je disais, c'est qu'il faut donc combiner, pour briser l'isolement, il faut évidemment retrouver un rôle dans la communauté ou dans la société via des associations. Et... ça va permettre aussi de réduire le risque de démence parce que l'isolement augmente de 60% le risque de démence et augmente aussi la dépression et le suicide. Donc, je pense que c'est important d'aller chercher du bien-être psychologique en se motivant un petit peu, chercher des projets, réaliser des activités comme on pouvait le faire à d'autres moments de la vie. Essayer, si on ne peut pas exprimer ses émotions chez un psychologue, pourquoi pas avec des personnes de confiance.
Oui.
du personnel qui est souvent débordé, mais peut-être d'autres convives d'un CHSLD ou des proches, de la famille.
Certains proches,
tout à fait.
Ouais,
oui, c'est important d'aller exprimer ce qu'on ressent.
Oui, c'est pas souvent aussi, c'est peut-être quelqu'un même plus loin de notre entourage, pas nécessairement de la famille immédiate. Tu sais, des fois, on se sent peut-être pas, on se dit, les personnes âgées vont se dire, ben, je vais les déranger, tu sais, en parlant de leurs enfants, ils ont trop d'occupations, tout ça. Peut-être d'essayer de trouver quelqu'un qui va être peut-être moins attaché avec eux, mais qui va quand même pouvoir les écouter. C'est pas toujours évident à trouver. Mais,
tout à fait, en effet.
On leur souhaite.
Ouais. Oui, c'est bien.
Il reste à peu près une minute.
Oui. Alors, en fait, moi, j'encouragerais tout le monde et les aînés, surtout, donc, à aller parler de vos doutes sur la santé mentale aux professionnels de la santé qui vous entourent.
Ouais.
Si vous n'êtes pas certain, vous avez des moments de tristesse, est-ce que je vis une dépression ou des troubles anxieux, vous n'êtes pas certain, parlez-en et les personnes, les professionnels autour de vous pourront dire est-ce que c'est vraiment le cas, ils pourront vous traiter.
Mm-hmm.
Et vous serez aussi accompagné en plus d'un traitement, médicament ou pas. D'accord ? Donc, c'est important. Il faut aussi dire avec encouragement que l'âge n'est pas un facteur de risque pour des problèmes de santé mentale, d'accord ? Mais par contre, une bonne santé mentale, c'est un aspect clé pour bien vieillir.
Exactement.
Donc, c'est vraiment retenir ça, tout comme c'est important de continuer à donner un sens à sa vie, d'avoir des projets, d'avoir un sentiment d'utilité, de se sentir inclus dans la société.
Éviter l'isolement surtout. Oui, on peut conclure avec ça. Donc, ben, écoutez, on peut peut-être donner l'information des gens qui veulent se faire aider. Petitfrère.ca, je pense. Hein?
Exactement, Petit Frère. Pour les aînés de plus de 75 ans et les personnes désirant aider les aînés, si vous voulez, être bénévole et aider les aînés.
On peut s'informer là-bas, petitfrère.ca. Merci beaucoup, Catherine Stassin, de ta chronique. Donc, la santé mentale chez les aînés. Merci et à la prochaine.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Quand tu m'ouvres les yeux pour pouvoir nous regarder. retour à l'équipe de Folie Douce, ceux qui tentent de démolir les tabous au sujet de la santé mentale.
C'est maintenant le moment du bloc expresso allongé. Alors, Pierre Laporte, on poursuit sur le sujet, la peur de l'engagement, oui, que tu as débuté plus tôt dans l'émission.
Oui, et je vais terminer la lecture de cet article que j'ai pris sur Internet qui s'appelle « Ces personnes qui ont peur d'aimer et de s'engager ». C'était sur le site comitépsychologue.net. Alors, on nous dit... Plus certaines personnes sentent notre amour et voient des marques de tendresse, plus ils auront tendance à fuir, se sentant piégés. Ils voudront alors couper court, bien qu'ils aient des sentiments naissants. Et bien que ce type de personne aimerait s'engager, la peur vaincra. Soit elle sabotera la relation, soit elle disparaîtra alors que tout allait bien. La peur de l'engagement amoureux est une armure de protection à laquelle on peut vite s'habituer. Comment la reconnaître? Cette personne souffre souvent de son incapacité. Elle le reconnaît elle-même et ne peut rien faire ou se le cache en se plongeant dans le travail. Qu'on se le dise, il est difficile d'avouer avoir peur de s'engager pour une vie, bien que cette peur soit compréhensible. Certains même ne voient jamais cette peur et pensent ne pas avoir de problème à ce sujet. Cette tendance à ne pas s'engager a de grandes chances de tirer sa source d'une blessure de l'enfance par un parents absents, démissionnaires ou encore distants. Elle peut également provenir de déceptions amoureuses qui ont forgé une image de soi peu flatteuse. On se voit alors comme une personne qui n'a rien à offrir. Une question réelle également. Combien d'enfants dont les parents ont divorcé croient encore au mariage? Et quand bien même certains d'entre eux pensent que le mariage est quelque chose de durable et possible, leur réaction dit souvent le contraire. Ces personnes se ferment à la possibilité de vivre pleinement une relation en refusant de s'exposer au risque d'être blessées ou ferment la possibilité de vivre une nouvelle relation. Et oui, comment construire soi-même un couple solide alors que nos propres parents en ont été incapables? Ces individus cherchent inconsciemment à éviter à tout prix de souffrir de nouveau. Vivre une rupture les replongerait dans le passé. Car qu'on le veuille ou non, nous reproduisons souvent ce que nos parents nous ont appris. Il faut être alors capable de découvrir autre chose et se lancer dans l'inconnu.
Et c'est pas rare de voir que des enfants de parents divorcés veulent à tout prix, tu sais, s'engager puis de pas vivre ce moule-là, mm-hmm, de divorce. Tu sais, ça m'est souvent arrivé de voir des gens comme ça qui étaient...
Des gens qui veulent prouver finalement qu'eux vont être capables.
Oui, puis qui veulent pas revivre, comme tu dis, là, le même pattern là, que qu'ils ont pu vivre dans leur famille avec leurs parents.
Oui, mais pourtant ça. Ici, on nous dit, ou dans d'autres articles en général, que ça peut avoir l'effet complètement contraire, c'est-à-dire qu'ils ont une mauvaise opinion, une mauvaise vision du mariage.
Moi, j'ai plus vu l'inverse, que les gens voulaient faire autrement, tu sais, voulaient comme changer le moule, si on veut, ouais, la volonté de dire, ben, eux vont réussir à... Ça reste un défi. Hein.
Oui, alors je continue l'article. Les résistances à l'engagement sont souvent liées à une estime de soi défaillante, une peur de ne pas être à la hauteur de nos espérances et de l'idéal que l'on s'est construit. La question du mariage fait surgir la question « Est-ce que je serai suffisamment attentif, tendre et aimant face à la contrainte du quotidien? » Ça, c'est autre chose. Mm-hmm. Le quotidien, l'usure du temps, des fois.
Bien, le quotidien partout, là, dans le fond, mm-hmm, le quotidien est dur pour tout le monde. D'être toujours bien, c'est pas toujours facile, même avec ses proches. Ouais. Là, avec ses...
Ouais. De traverser des épreuves aussi, exactement, c'est pas facile.
Non.
Alors, Or, nous ne devrions pas le voir de cette façon, mais plutôt comme un engagement envers soi, l'occasion de se réassurer sur sa propre valeur grâce à notre moitié qui nous a élus comme l'unique. Aimer dans la durée pourrait entrer en confrontation avec nos propres limites, un exercice que certains n'ont pas envie de tenter. Il faut se fixer des objectifs progressifs en prenant position dans des situations qu'on aurait évitées auparavant, que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle. De jour en jour, décidez de prendre des engagements, mais ne réfléchissez pas trop. La réussite est dans l'action. Et s'il est fort probable que la peur vienne à vous paralyser, essayez d'obtenir de l'aide afin de vous améliorer tout de même au fur et à mesure. Il est important de déterminer et de changer les croyances conscientes et inconscientes qui nous nourrissent pour les vaincre. Il faut effectuer un lâcher-prise et vivre un détachement par rapport à ses croyances et s'en libérer pour acquérir de nouvelles programmations bénéfiques. Alors, c'est pas facile, ça peut être intimidant, tu sais, de s'embarquer, parce qu'idéalement, on s'embarque pour l'éternité,
ouais,
avec un conjoint ou une conjointe.
Bien, c'est dans tous les domaines. Je pense aussi aujourd'hui, il y a moins de... Tu sais, même si on parle du travail, il y a beaucoup de gens qui vont changer de travail. Tu sais, c'est rare, ouais, qu'ils vont faire une carrière. Donc, c'est la vie est faite différente, justement, est faite différemment que ce que les parents, les grands-parents ont
connu. C'est vrai.
Comme tu disais tantôt, les statistiques, tu sais, étaient quand même importantes, là, sont devenues importantes au niveau des divorces, alors que dans les années, dans les débuts des années 1910, 20 et 30, mm-hmm, les divorces,
ça se voyait quand, presque.
C'était peut-être mal vu, c'était peut-être une question, oui, de... Dans la société, peut-être les gens avaient le désir de pas continuer, mais c'était mal vu.
Ben oui, c'était quasiment honteux, je te dirais.
Même, j'étais même surpris, dans les années 50, tu parlais à un moment donné de taux de divorce, je pense que c'était quelque chose comme 30 %, j'aurais jamais cru que... Tu sais, les années 70, je pense qu'on en était... témoin, là, toi et moi, mm-hmm, là, que dans les années 70, ça, c'est là que ça a vraiment explosé. Mais j'aurais jamais cru qu'en dans les années 50 que ça aurait été aussi élevé. Là, je pense que c'était 30 %.
Ben, tu vois, dans les années 70, c'était 50 %,
ouais, c'est
des
ça,
couples qui divorçaient.
Ben, ça, c'est pas étonnant, parce que c'est à peu près la moyenne qui est restée là, au fil des années. On dit c'est à peu près un couple sur deux qui ne fonctionne pas. Là.
Et donc, on nous dit que 60, c'est-à-dire les deux tiers, 67 % des couples mariés depuis 1990 auront divorcé en 2030.
Oui. Combien de pourcents, tu dis?
Ben, 67 %. Ouais, donc, ouais, c'est les deux tiers.
C'est ça, mais dans le fond, c'est effectivement, c'est un pensez-y bien. Donc, merci, Pierre, pour le sujet. En tout cas, la peur de l'engagement, il y a un côté, évidemment, très émotionnel là-dedans. Donc, ouais, c'est pour ça que tu nous l'as amené. Alors, merci beaucoup et demeurez des nôtres.
Sous mon sang, la grenade. Sous mon sang, la grenade. Sous mon sang, la grenade.
souhaitez écouter l'émission Folie Douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube, antenne.qc.ca, antenne.qc.ca.
Quelques mots pour conclure ce rendez-vous de Folie Douce. Alors, Pierre Laporte, on va faire la nomenclature des chansons qu'on a écoutées aujourd'hui à l'émission. On a pu entendre en début d'émission « Des cœurs par la tête ».
De Claude Bégin.
On a entendu « 1000 G ».
De Horry.
Dans la deuxième demi, Les départs en retard.
De Mélanie Venditti.
Et à l'instant, La grenade.
De Clara Luciani.
Merci beaucoup pour le choix musical. Merci pour la mise en onde également.
Bienvenue, mon cher.
Et tu nous as présenté dans les blocs Espresso et Allongé la peur de l'engagement. Merci pour ce sujet. Je remercie notre invité en début d'émission, Alexandra Loisel-Goulet, qui nous a présenté, qui nous a vraiment raconté son livre « Ma vie est comme une chanson des années 80 », un titre très accrocheur. Merci, Alexandra, d'avoir été des nôtres. Je remercie notre collaboratrice, Catherine Stassin, qui nous a parlé de la santé mentale chez les aînés. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie Douce. Au revoir!